France Inter.
Le 13-14, c'est Lina Slow.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire du 13-14. L'emprise au cœur de l'audience. Ce matin, la cour d'assises du Tarn où se tient le procès de Cédric Jubilard pour le meurtre de sa femme Delphine. Les débats s'étaient focalisés hier sur l'accusé, sa personnalité ambivalente. Mais dès le deuxième jour d'audience, le tribunal a voulu s'en concentrer sur la victime. Et on verra que c'est une décision plutôt rare. Des mois de réflexion, des mots mûrement réfléchis. Et maintenant, que va-t-il se passer? Hier soir, la France a officiellement reconnu l'État de Palestine. On ira à Ramallah et à Jérusalem, mais aussi aux États-Unis, car c'est au tour de Donald Trump de s'exprimer cet après-midi à l'Assemblée générale des Nations Unies et la tonalité sera sans doute très différente. Le président américain prépare une attaque en règle contre le multilatéralisme. L'actualité, c'est aussi la campagne des municipales qui démarre à Lyon. Premier bain de foule pour Jean-Michel Aulas, pas encore officiellement candidat, mais déjà sur un marché pour tester sa popularité. Tandis que les élus du littoral sont en congrès aujourd'hui en Corse et réclament une aide financière pour faire face au changement climatique. Dites-moi combien vous payez, comment vous payez vos courses et je vous dirai quel âge vous avez. Bonjour Xavier Demani.
Bonjour Céline.
On apprend que les jeunes payent de plus en plus avec leur téléphone.
Oui, plus d'une transaction sur trois chez les moins de 35 ans. Le smartphone s'impose peu à peu comme un moyen de paiement à part entière.
Merci Xavier, on verra ça en détail avec vous tout à l'heure. Des jeunes qui intéressent aussi beaucoup l'armée de terre, ça on en parlera à 13h30 avec nos invités. L'armée recrute et vise tout particulièrement les jeunes diplômés dans la tech, la maintenance ou encore la logistique. Une grande campagne d'affichage est lancée dans quelques jours. On attend vos questions, vos témoignages. 01 45 24 7000 et l'appli Radio France. Et puis dans le dernier quart d'heure, on parlera de la pêche récréative qui a la cote avec Cyril Petit du quotidien Ouest France. Et puis de Dalida et de sa chanson Love in Portofino avec le metteur en scène Sébastien Zopardi.
Elle fait un peu rêver justement sur Portofino. Et je suis allé à Portofino, pensant vivre un petit moment de Dolce Vita. Et en fait, au mois d'août, c'est une mauvaise idée. C'était à la fois magnifique et en même temps, c'est une sorte de vacances un peu ratées. Magnifiquement ratées, on va dire.
Mais ce sera au micro de Frédéric Pommier dans C'est une chanson. Voilà pour le programme. C'est parti pour le 13-14.
France Inter.
C'est souvent la règle. Dans un procès, l'accusé, sa vie, son enfant, son parcours sont examinés minutieusement au cours de l'audience, dès le début, pour y trouver de quoi mieux comprendre les faits, de quoi mieux juger les actes. Mais dans le procès de Cédric Jubilard, qui s'est ouvert hier à la cour d'assises du Tarn, c'est la personnalité de la victime qui était au cœur de l'audience dès ce matin. Bonjour Jean-Philippe Degnaud.
Bonjour Céline.
En direct d'Albi, le tribunal s'est demandé qui était Delphine Jubilard disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Était-elle soumise? Était-elle sous l'emprise de son mari?
Oui, dessiner la personnalité d'une victime décédée en rencontrant ceux qui l'ont connue et qui ont forcément une opinion négative sur l'accusé, c'est pas simple, souligne l'enquêteur. Il raconte alors l'enfance difficile de Delphine dans une famille désargentée où, quand il n'y avait pas assez d'argent pour en acheter, on comptait les raviolis pour que chaque enfant en ait un nombre égal. Et puis, à 18 ans, l'adolescente effacée rencontre le trublion Cédric, son opposé, qui lui apporte un peu de légèreté et lui redonne confiance en elle au début, car au fil des années, il la déçoit avec son immaturité. Elle cherchait plutôt un homme stable, un homme fiable, présent, bien ancré dans la vie, résume l'enquêteur. Et c'est là, à 6 mois avant sa disparition, que Delphine prend un amant et envisage de partir vivre avec lui. Mais elle n'est pas tombée sous sa domination, on est bien d'accord, relèvent les avocats de Cédric Jubilard. L'enquêteur en convient, Cédric était dominant, mais Delphine n'était pas soumise, étayant ainsi le long travail de la défense pour tenter de réhabiliter l'image d'un Cédric Jubilard dont tout indiquerait dès le début qu'il serait forcément le meurtrier de son épouse.
Et Jean-Philippe, c'est un choix plutôt rare qu'a fait là le tribunal.
Oui, dresser la personnalité d'une victime, c'est extrêmement rare. Alors cela permet d'un côté de prendre le temps de s'intéresser à elle, au-delà des témoignages que ses proches vont livrer d'elle à la cour, mais il y a un petit côté embarrassant dans cet exercice, comme s'il fallait nécessairement prouver que Delphine était une femme et une mère irréprochable, comme s'il fallait justifier qu'elle n'avait aucune raison de disparaître et de mourir, ce qui est quand même une évidence.
Merci Jean-Philippe Degnaud, en direct d'Albi, grâce aux moyens techniques de Lucien Lefebvre. Sèvres. 20 minutes de discours pour tenir une promesse vieille de 40 ans. La France reconnaît l'État de Palestine. Déclaration solennelle d'Emmanuel Macron hier soir à l'Assemblée générale des Nations Unies, imitée par plusieurs pays. Les partis de gauche saluent une victoire et l'espoir d'aboutir enfin à la paix. La droite réitère ses réticences. Le Rassemblement national parle même d'une faute. Alors sur place, que dit-on de cette reconnaissance symbolique avant d'aller à Jérusalem ? On vous retrouve en direct de Ramallah. Bonjour Étienne Monin.
Bonjour.
Une manifestation était organisée ce matin dans le centre de cette ville de Cisjordanie occupée, le Fatah. Le parti au pouvoir avait appelé les fonctionnaires à se rassembler. Alors est-ce que les Palestiniens se sont mobilisés ?
Non, pas véritablement sur le goudron brûlant de la place Manara, devant le rond-point sur lequel on voit les sept lions fondateurs de Ramallah. On ne compte que...
Étienne Monin, en direct de Ramallah, la liaison visiblement a été interrompue avec notre envoyé spécial que l'on va tenter de retrouver dans les prochaines minutes. On va, en attendant, se rendre à Jérusalem pour voir la réaction du côté de la classe politique israélienne, car elle a été, et elle l'a beaucoup dit, largement opposée à cette reconnaissance, vue comme une récompense offerte au Hamas, y compris d'ailleurs Thibault Lefebvre, vous êtes à Jérusalem, les leaders les plus à gauche, les héritiers d'Isaac Rabin et des acteurs des accords d'Oslo qui disent aujourd'hui leur incompréhension.
Yair Golan est l'héritier des travaillistes. Avec son nouveau parti des démocrates, cet ancien haut gradé incarne aujourd'hui l'espoir d'une gauche à l'agonie. Et pourtant, comme tous les leaders des partis politiques en Israël, il est lui aussi opposé à la reconnaissance d'un État palestinien. Il s'est exprimé dimanche sur les ondes de la radio 103 FM.
Cette reconnaissance a des conséquences très graves pour Israël. J'ai essayé d'expliquer au gouvernement à quel point cette décision portait atteinte à sa politique, Netanyahou est responsable.
Il reste en Israël un petit groupe d'humanistes de la société civile qui défendent encore une solution à deux États. C'est le cas des membres de l'association Shalom Arshav, La Paix Maintenant, et de son directeur exécutif, Lior Amichai.
La reconnaissance de l'État palestinien est quelque chose de très important. C'est ce qui va permettre d'apporter de la liberté aux Palestiniens et de la sécurité aux Israéliens. Le gouvernement de l'État hébreu menace de prendre des mesures, mais de toute façon, l'annexion est en cours.
Une annexion qui passe par l'explosion du nombre de chantiers en Cisjordanie occupée. Depuis le début de l'année, il y a, selon Shalom Arshav, 5 fois plus de projets de construction de logements que l'année dernière. Thibault Lefebvre, Jérusalem, France Inter.
Et on va maintenant retrouver Étienne Monin depuis Ramallah, où la liaison, vous l'avez compris, est un peu fragile. Vous nous parliez, Étienne, de la faible mobilisation des Palestiniens malgré l'appel à manifester.
Oui, c'est ça. Ils sont venus sur le goudron brûlant de la place Manara. C'est un rond-point sur lequel on voit les 7 lions qui ont fondé la ville de Ramallah. Mais on ne compte ici qu'une centaine de personnes. Ces manifestants sont recouverts par une forêt de drapeaux palestiniens, au milieu desquels surnagent quelques drapeaux internationaux.
Je porte ce drapeau parce que ces pays ont reconnu la Palestine et on est très fiers de cette reconnaissance. C'est très important pour nous, les Palestiniens.
Ce rassemblement réunit des jeunes qui portent les portraits du président Abbas, des communautés religieuses et des officiels, comme Sabri Sadem du comité exécutif du Fatah, le parti au pouvoir.
On est venu aujourd'hui pour remercier la communauté internationale, particulièrement la France. La France, avec l'Arabie Saoudite, a monté la plus belle session de l'Assemblée Générale de l'ONU, une des plus belles conférences au monde.
C'est donc une manifestation qui s'adresse à la communauté internationale, mais les Palestiniens qui regardent de loin disent qu'ils ont du mal à se réjouir dans le contexte de l'intensification de la guerre. Gaza est toujours sous les bombes et les effets de la colonisation s'amplifient sensiblement.
Merci Étienne Monin, en direct de Ramallah avec les moyens techniques d'Éric Caudrin. Et puis autre voix qui devrait s'élever avec virulence pour critiquer la décision de la France et la reconnaissance de l'État de Palestine, c'est celle de Donald Trump. Il figure parmi les orateurs attendus cet après-midi à la tribune des Nations Unies à New York et il devrait se montrer combatif, dit la porte-parole de la Maison-Blanche. Il devrait, selon elle, s'en prendre aux organisations mondialistes qui ont fait, je cite, péricliter l'ordre mondial, des mots qui visent évidemment l'ONU. Alors comment ces attaques sont-elles accueillies? À New York, où vous trouvez Franck Madvon, vous avez rencontré l'une des mémoires des Nations Unies, Stéphane Dujarric. Il est français et il occupe la fonction de porte-parole du secrétaire général Antonio Guterres.
Stéphane Dujarric vit sa 25e Assemblée Générale. Il a travaillé aux côtés de trois secrétaires généraux, Kofi Annan, Ban Ki-moon, Antonio Guterres. Voici ce que lui inspirent les attaques de Trump et d'autres contre le multilatéralisme.
Cette organisation en a vu d'autres. Nous ne sommes pas une organisation globaliste. Nous sommes une organisation multinationale. Si on veut un avenir positif pour tous, nous avons tous un devoir de préserver les Nations Unies.
La preuve, dit-il, l'ONU subit des attaques 11 mois par an, mais tout le monde s'y retrouve chaque année au moment de l'Assemblée Générale.
Cette semaine, nous allons avoir 1600 rencontres bilatérales entre différents pays. Ça reste le centre de la diplomatie internationale et ça reste l'endroit où les solutions à tous ces problèmes qui ne respectent pas les frontières peuvent être trouvées.
Encore faut-il réformer l'ONU, selon le porte-parole du secrétaire général.
Le monde n'est plus le même. Nous avons maintenant des puissances qui n'existaient pas en 1945 et souvent, ces pays ne se sentent pas représentés dans nos institutions. Ça doit passer par une réforme du Conseil de sécurité. Il est inconcevable que ce Conseil de sécurité n'ait pas un seul siège permanent africain.
Cette réforme du Conseil de sécurité est poussée par la France, qui lance une nouvelle initiative aujourd'hui. Elle y voit une réponse à la crise du multilatéralisme. New York, Franck Madvon, France Inter.
Et au multilatéralisme, Donald Trump préfère les tête-à-tête. Il a prévu de rencontrer dans la journée à New York des dirigeants des pays arabes, le président argentin Javier Milei, ou encore l'ukrainien Volodymyr Zelensky, qui réclame encore et toujours des sanctions supplémentaires contre la Russie. La nuit dernière, de nouvelles frappes russes ont causé la mort de deux personnes dans le sud de l'Ukraine. La guerre qui suscite aussi inquiétude et vigilance de la part des pays voisins de la Russie, d'où ces réactions très fortes après le survol des aéroports d'Oslo et de Copenhague par des drones hier soir. Des drones non identifiés. La première ministre danoise dénonce la plus grave attaque contre une infrastructure critique. Nous faisons face à une menace de sabotage importante, disent les services de renseignement. La Russie, de son côté, dit ne pas être impliquée. À chaque fois, nous entendons des accusations sans fondement, a déclaré le porte-parole du Kremlin. C'est l'une des grandes figures du printemps arabe, l'un des artisans de la révolution 2011 en Égypte, qui avait abouti à la chute d'Hosni Moubarak. Alaa Abdel Fattah est désormais libre, gracié par le président Sissi après de longues années d'emprisonnement. Il est sorti de prison la nuit dernière, Claude Guibal, et les vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent la joie de sa famille.
Il rit, il pleure, il tient dans ses bras sa mère, Leïla, le corps épuisé par les 287 jours de grève de la faim que cette femme a fait dans l'attente de la libération de son fils, qui a passé en tout presque 10 ans dans les prisons égyptiennes. En 2011, lorsque des centaines de milliers d'Égyptiens convergent sur la place Tahrir pour demander le départ d'Hosni Moubarak, Alaa Abdel Fattah est là, il a alors une trentaine d'années, c'est un des premiers blogueurs du monde, un de ceux qui ont contourné la censure des médias officiels pour permettre d'entendre les mots de la jeunesse arabe. Il est déjà l'icône de cette jeunesse révolutionnaire, laïque, libérale. Leur demande, la démocratie et le départ d'Hosni Moubarak au pouvoir depuis 30 ans, et avec lui, la fin de la mainmise de l'armée sur tout le pays. Lorsque cette armée reprend le pouvoir en 2013 en renversant le président islamiste Mohamed Morsi, le maréchal Abdel Fattah al-Sissi décide d'en finir avec la révolution. Il fait d'Alaa Abdel Fattah sa bête noire, systématiquement arrêté, emprisonné, maintenu en détention bien qu'il ait purgé sa peine. Alaa Abdel Fattah était devenu le symbole de la répression, sa libération réclamée par des prix Nobel et la Grande-Bretagne qui lui avait donné la nationalité britannique.
Claude Guibal, rédaction internationale de Radio France. Et puis toujours à l'étranger, des commerces fermés, des vols annulés, des transports interrompus à Hong Kong qui se prépare à l'arrivée d'un super typhon. Les autorités parlent d'une menace grave comparable à certaines des tempêtes les plus destructrices de l'histoire récente de la région.
France Inter, le 13-14. Céline Asselot.
Une citadelle qui surplombe la mer, des falaises vertigineuses et une érosion de plus en plus marquée. La ville de Bonifacio en Corse du Sud accueille en ce moment le congrès annuel des maires du littoral. Tous confrontés à la même difficulté, le niveau de la mer monte. Plus de 5000 logements pourraient être submergés d'ici 2050 en France. Le coût est évalué à 1,2 milliard d'euros. Alors les élus réclament en vain la création d'un fonds spécifique et ils font part de leur colère, Marie Mollet.
Tout le long du littoral,
voile, les élus locaux se plongent dans les calculs. Quel prix à payer pour le recul du trait de côte ? Coût exorbitant au Pouliguen, en Loire-Atlantique. 4000 habitants, son maire, Norbert Samama.
Les enjeux d'habitat, 2050, on est à peu près sur une enveloppe de 58 millions d'euros pour une commune qui, elle, a une dépense d'investissement de 3 millions par an. Donc autant vous dire que cette enveloppe est strictement inaccessible. Donc si l'État n'est pas au rendez-vous, on n'y arrivera pas.
Alors, quelle déception cet été quand François Bayrou a écarté l'idée d'un fonds érosion financé par l'État. En clair, les communes doivent piocher dans leurs propres recettes fiscales. Alain Blanchard, délégué général de l'Association nationale des élus du littoral.
Eh bien, il y a eu confirmation qu'effectivement, ces propositions de financement n'étaient pas retenues et qu'il n'y avait en fait plus rien sur la table. En fait, on est dans le même bateau, mais simplement, nous, on est les premiers à prendre la lame et il faut qu'on soit tous ensemble soudés, y compris financièrement.
Et à qui parler désormais ? Aujourd'hui, aucun ministre n'a fait le déplacement. Impossible, ils sont démissionnaires. Courroux de Robert Crost, maire du Gros-du-Roi.
Il n'y a pas de continuité gouvernementale et ministérielle. Et quand on avance et quand on travaille positivement, le gouvernement change et il faut tout recommencer.
Et les élus locaux poussent notamment pour une nouvelle taxe sur les plateformes type Airbnb pour aller chercher de nouvelles recettes sans gréver les finances de l'État.
Marie Mollet à Bonifacio pour France Inter. Pas de nouvelles affiches, pas de nouvelles campagnes de promotion. Les dépenses de communication de l'État seront gelées jusqu'à la fin de l'année. Cette décision s'inscrit dans la volonté du Premier ministre de rationaliser les dépenses publiques. Peut-on lire dans ce communiqué de Matignon transmis à France Inter, Sébastien Lecornu qui traque donc les dépenses et qui cherche toujours son gouvernement. Le Premier ministre s'entretient ce midi avec les chefs de parti du bloc central. Parmi les participants à ce déjeuner figure Gabriel Attal qui prépare aussi les municipales. Le patron du parti Renaissance vient d'annoncer son soutien Jean-Michel Aulas, l'ex-patron de l'OL qui va se déclarer officiellement candidat dans quelques jours. Aura donc la mission de ravir la mairie de Lyon aux écologistes. Et ce matin, déjà, il a testé sa popularité, Christophe Vincent, sur un marché du 5e arrondissement.
Le marché du Point du Jour, l'ancien fief de son ami Gérard Collomb, une clientèle âgée, Jean-Michel Aulas arrive en terrain conquis.
Moi qui adore Lyon, je connais plus ma ville, et notamment la circulation.
Vous voyez, jamais j'aurais envisagé de faire de la politique.
Oui.
Et si je suis là aujourd'hui,
oui.
C'est pour ça.
Bien, les gens qui viennent faire des grosses courses, ils viennent en voiture, ils ne peuvent pas venir en vélo.
Bien sûr, on va trouver des solutions, ensemble.
Après Horizon, LR et l'UDI, Jean-Michel Aulas a le soutien de Renaissance, mais il insiste sur son indépendance.
Moi j'ai le sentiment qu'il y a un profond mouvement d'enthousiasme pour qu'il y ait du changement. Là vous voyez, j'avais un conseil d'administration ce matin. À 8h, la personne venait de Grenoble, elle a mis 1h15 pour rentrer aussi dans Lyon. Pour réussir en politique, je pense qu'il faut faire l'union. Et je pense que c'est plutôt un atout de venir de la société civile quand on est bien accompagné par des politiques qui ont des valeurs.
Pour beaucoup, Aulas est clairement le candidat de la droite.
Il n'est pas de mon côté, il est soutenu par LR, soutenu par ci, soutenu par là. Moi, je suis à gauche. Voilà, point.
Vendredi soir, on en saura plus sur la vision de Jean-Michel Aulas. Pour l'instant, son projet reste flou.
Reportage à Lyon, signé Christophe Vincent. Une entreprise dans une situation financière critique qui impose sans délai des réformes structurelles. Voilà France Télévisions, telle que décrit la Cour des comptes ce matin. Bonjour Alexandra Hacoun.
Bonjour.
Dans leur rapport, les sages se montrent plutôt sévères.
Oui, tout en saluant le leadership de France Télévisions en matière d'audience, sa position de première source d'information des Français. Les magistrats de la rue Cambon dressent dans ce rapport de 166 pages, le portrait d'une situation financière lourdement dégradée entre 2017 et 2024, un déficit net cumulé de 80 millions d'euros, une forte érosion de trésorerie et une baisse vertigineuse des capitaux propres. Et 2025 ne s'annonce pas mieux, bien au contraire. Sont pointés du doigt la masse salariale, les frais de fonctionnement et les investissements dans le numérique. Les sages appellent donc sans délai à des réformes structurelles, la renégociation notamment du grand accord collectif de 2013 qui, je cite, contribue au surcoût et alourdit les charges. Ils appellent aussi à accroître les synergies entre France 3 et le réseau ICI de Radio France, ex-réseau France Bleu, des recommandations auxquelles la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, a déjà répondu souscrire et travailler à leur mise en œuvre. Mais l'institution présidée par Pierre Moscovici souligne aussi la responsabilité de l'État dans la situation actuelle de France Télévisions et lui demande de fixer à l'entreprise une trajectoire financière réaliste, après des orientations contradictoires entre 2023 et 2024.
Alexandra Hacoun, merci, spécialiste média à la rédaction de France Inter. La Samaritaine sanctionnée pour avoir dissimulé des caméras dans ses réserves. C'est la CNIL qui l'annonce. Le grand magasin parisien a été condamné à une amende de 100 000 euros pour faire face à l'augmentation de vols de marchandises dans les réserves. La direction de la Samaritaine avait installé des caméras qui ressemblaient à des détecteurs de fumée sans en avertir les salariés, ce qui est contraire au règlement européen sur la protection des données. Et puisque l'on parle de grands magasins, comment payez-vous vos achats aujourd'hui? Visiblement, c'est avant tout une question de génération, Xavier Demani, on vous retrouve. Les paiements par téléphone sont encore minoritaires, mais ils sont en très forte progression.
Oui, alors d'abord, qu'on parle bien tous de la même chose, ce qu'on appelle les paiements par téléphone font en fait partie de la catégorie des paiements par carte, à la seule différence que le support est dématérialisé, tout se passe dans le smartphone via des applis comme Apple et Google Pay. Et cet usage explose effectivement, plus 54% en un an, selon un baromètre de la Banque de France, pour atteindre aujourd'hui quasiment une transaction sur six.
Avec un moteur principal donc, Xavier, ce sont les jeunes.
Oui, et ça c'est une étude du groupe BPCE qui nous l'apprend. Sur son panel de clients, Banque Populaire, Caisse d'Épargne, la tendance est exponentielle, particulièrement chez les moins de 35 ans, avec plus d'une transaction sur trois réalisée avec smartphone. Le recours aux espèces pour cette tranche d'âge est assez logiquement en net recul, quasiment divisé par deux chez les moins de 25.
Alors c'est plus rapide, mais est-ce que c'est plus sécurisé?
Oui, car à chaque paiement, le smartphone impose une authentification forte par reconnaissance faciale ou empreinte digitale selon l'appareil. Seul gros bémol aujourd'hui, les outils qui s'imposent peu à peu dans nos habitudes sont tous américains. C'est l'un des enjeux pour nos banques européennes. Elles ont lancé Wero il y a un an pour les virements instantanés. Application en forte progression. Elle devrait bientôt permettre de payer en magasin et en ligne. Bruxelles travaille aussi sur son projet d'euro numérique, mais qui ne devrait pas voir le jour avant 2029.
Merci Xavier Demani. Service culture écran de France Inter. En Savoie, une série de cas de légionellose détectée. Cette infection pulmonaire provoquée par des bactéries présentes dans l'eau. Une personne est morte, 6 autres sont soignés en réanimation. Tous résident ou sont passés par la commune d'Albertville ces derniers jours. La préfecture précise que des investigations sont menées pour trouver l'origine de la contamination. La pluie a fait son retour depuis quelques jours. Vous l'avez pu le constater, on va y revenir avec les prévisions d'Élodie Calac dans quelques minutes. Mais ça ne suffit pas à effacer la sécheresse qui touche une grande partie de la France après cet été très chaud et qui a un impact sur les récoltes. Exemple en Dordogne, le maïs est plus petit que la normale et la production est réduite de 40% dans certaines exploitations, comme à Saint-Paul-la-Roche, où vous vous êtes rendu, Thibaut Delmarle.
Hervé Robert est installé depuis plus de 30 ans. La récolte de maïs n'est pas fabuleuse. Au bord de ce chemin, l'épi est au niveau de son genou.
Voilà, regardez. Voilà ce qu'il y a sur un épi comme ça, sur un maïs comme ça. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Quand vous avez autant de jours sans pluie et avec des températures extrêmes, même si le maïs c'est une culture qui est relativement coriace, on arrive à ça.
Et encore, grâce aux fortes pluies de ces derniers jours, les feuilles ont reverdi. Sur cette autre parcelle, il espérait ne récolter que l'épi, mais Hervé va devoir ensiler tout le pied.
C'est prévu pour faire ce qu'on appelle du paston, c'est-à-dire on ensile que l'épi, pour concentrer la valeur de l'épi. Sauf que là, il n'y a pas d'épi, donc ça va être ensilage plante entière.
Et ici, tout le maïs sert à nourrir les vaches limousines.
Ça veut dire moins de bouffe pour les bêtes en termes de volume. Il y a un impact significatif.
En plus de sa ferme, il travaille pour de nombreux agriculteurs du coin.
On sème à peu près 450 à 500 hectares par an. Et sur les surfaces qu'on a fait, on est à 40% de moins.
La sécheresse et la chaleur réduisent la croissance, mais en plus, elles attirent le gibier dans les champs de maïs.
Les seules parcelles vertes qu'il y ait eu pendant ces journées caniculaires, c'était le maïs. Et donc le gibier s'est réfugié dans les maïs et a fait des dégâts énormes.
Après le passage de l'ensileuse ou de la moissonneuse, Hervé a semé du colza qui devrait pousser beaucoup plus facilement.
Reportage Thibaut Delmarle de la rédaction ici Périgord avec ce France Bleu. C'est une affaire qui a entraîné des manifestations anti-immigration inédites au Royaume-Uni. Un demandeur d'asile éthiopien vient d'être condamné par la justice britannique à un an de prison pour des agressions sexuelles sur une femme et sur une adolescente de 14 ans. Et puis quel est le point commun entre Sardou, Delpech, Thor ou Fugain, à part que ce sont des gloires de la chanson française des années 70? Eh bien tous et toutes, vous l'avez compris, s'appellent Michel et leurs chansons sont au cœur d'un spectacle présenté à partir de ce soir à la scène parisienne. Ça s'appelle Radio Michel, créé et mis en scène par Julien Baldacchino, qui est aussi journaliste ici à la rédaction de France Inter. Et Victor Vasseur est allé assister aux dernières répétitions.
Filage dans 2 minutes.
1, 2, 3. La bonne musique.
Je m'appelle Sandra, j'ai 50 ans et je suis infirmière de bloc opératoire.
De quoi parle cette comédie musicale ?
D'une radio qui s'appelle Radio Michel, qui ne passe que des Michel et qui a quelques soucis dans le futur, un peu éloigné quand même, mais dans le futur, parce que plus personne ne s'appelle Michel. Donc comment une radio qui ne passe que des Michel peut survivre dans ces conditions ?
Qu'est-ce que vous aimez dans toutes les comédies musicales que vous voyez ?
La joie que ça peut donner aux gens, en vrai, quand il y a la musique live qui arrive. Mon cœur qui s'emballe et je deviens joyeuse. Il y a vraiment des gros sentiments qui sont révélés par la musique.
C'est Michel.
Franck, 62 ans. Et dans la vie, je suis informaticien.
Votre Michel préféré ?
Michel Berger, je dirais. Parce qu'il y a beaucoup de sentiments divers, beaucoup qui parlent, qui nous parlent intimement.
C'est plus marrant, c'est moi.
Vincent, 45 ans.
C'est quoi le plus difficile sur scène ? Chanter ou jouer ?
Pour moi, c'est chanter. Quand on oublie les paroles, quand c'est un texte, c'est pas trop grave. Quand c'est dans une musique, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est ça que je trouve plus difficile en réalité.
Tout le monde a du cœur.
Voilà pour ce spectacle Radio Michel, la première, c'est donc ce soir à la Scène Parisienne. Et 5 autres dates sont prévues jusqu'au mois de février prochain, 13h25. Restez avec nous sur France Inter. Dans la prochaine demi-heure, les prévisions météo d'Élodie Carillac avec l'automne qui semble être arrivé d'un coup. On verra si ça va durer. On accueillera ensuite nos invités, le général Arnaud Goujon, chargé du recrutement au sein de l'armée de terre, et la sergent Maïvin, qui fait justement partie de ces jeunes diplômés que l'armée cherche à attirer. Une grande campagne sera lancée dans quelques jours avec l'objectif de signer cette année encore 16 000 contrats d'engagement, dont 4 000 d'officiers, de sous-officiers. On attend vos questions, vos témoignages, 01 45 24 7000 et l'appli Radio France. Notre feuilleton ensuite nous emmènera à la basilique de Saint-Denis au nord de Paris en plein travaux pour tenter de retrouver sa splendeur d'origine. On visitera ensemble tout à l'heure, on ira rencontrer les artisans qui ont notamment participé à la rénovation de cette belle basilique. 13h50, c'est la France. Et ce sera avec vous, Cyril Petit, bonjour.
Bonjour Céline.
Du quotidien Ouest France, où allez-vous nous emmener aujourd'hui ?
Eh bien, de Saint-Va dans la Manche à Mulhouse, dans le Haut-Rhin, en passant par Périgueux en Dordogne, je vous parle, Céline, de deux révolutions dans le monde de la pêche.
Et puis on retrouvera également Frédéric Pommier, c'est une chanson, avec aujourd'hui le metteur en scène Sébastien Azoparti, qui a choisi Dalida et sa chanson Love in Portofino. Voilà pour le programme de la prochaine demi-heure. À tout de suite.
T'as vu ? Le voisin a refait ses extérieurs.
Tu parles. C'est un spécialiste qui l'a fait. C'est Daniel Moquet.
Eh ben, nous aussi allons voir ce Daniel Moquet.
Du vendredi 26 au dimanche 28 septembre, rendez-vous aux portes ouvertes Daniel Moquet. Pour vos allées, terrasses, clôtures, pergolas, faites confiance aux spécialistes de vos aménagements extérieurs.
Daniel Moquet.
Tout est OK.
Parce que l'on a tous un proche victime du cancer, on sait à quel point il est important d'aider la recherche. C'est pourquoi Gustave Roussy, premier centre de lutte contre le cancer en Europe, s'est fixé l'objectif de guérir le cancer au XXIe siècle. En désignant l'Institut Gustave Roussy comme bénéficiaire d'un legs, d'une donation ou d'une assurance vie, vous donnez à nos chercheurs et à nos médecins les moyens de sauver des vies. Appelez dès maintenant le 0800 710 400 pour recevoir notre brochure legs, donation et assurance vie.
France Inter, partenaire de la comédie musicale Chicago. Le spectacle scandaleusement chic et glamour, qui a déjà séduit 34 millions de spectateurs à travers le monde, revient au Casino de Paris à partir du 7 novembre prochain, avec Chaim en rôle titre. Plongez au cœur des années 20 avec un orchestre live sur scène dans un Chicago qui mêle crime, jazz et corruption. Chicago au Casino de Paris, une comédie musicale France Inter.
13h28, la météo.
La météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso fabriquées en France et ses doses en papier naturel. À retrouver sur malongo.com.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Et c'est une journée humide et fraîche.
Oui, alors du Grand Est vers la région parisienne, le centre-val de Loire, Poitou-Charentes, le massif central et le nord des Alpes, beaucoup de nuages, des pluies de temps en temps, parfois copieuses et orageuses cet après-midi sur le nord-est. La neige s'abaisse autour de 2200 mètres sur le nord des Alpes. Ailleurs, on a des nuages aussi, quelques averses, quelques éclaircies, plus belles vers l'ouest de la Bretagne et en Méditerranée avec du vent, mais tout de même un risque d'averses et d'orages cet après-midi sur l'est de la Corse. L'ambiance est bien automnale, hein, fraîche pour la saison, pas plus de 9 9 à 15 degrés sur un grand quart nord-est, 15 à 18 en allant vers la Manche, l'océan et le sud-ouest, et encore 20 à 26 en Méditerranée.
Et est-ce que ça va durer longtemps?
Alors demain et jeudi, mêmes ingrédients, ouais. Des nuages, quelques pluies ou averses, un petit peu de neige dès 1800 mètres sur les Alpes, de la fraîcheur. Vendredi, les pluies vont quand même se décaler vers la façade est, ça ira mieux à l'ouest avec le retour de petites éclaircies, et puis quelques degrés de plus, mais ça restera quand même timide.
Bon, c'est le temps de changer la garde-robe, en tout cas, c'est ce que je comprends grâce à vous. Merci Elodie Calac de Météo France.
France Inter, le 13-14, Céline Asselot.
Elle parle d'un enjeu majeur pour faire face aux défis d'un monde de plus en plus instable. L'armée de terre recrute et le fait savoir dans une grande campagne d'affichage qui sera relancée dans quelques jours. Mais est-elle attractive? Parvient-elle à concurrencer le secteur privé? Deux invités avec nous pour en parler sur France Inter. Le général Arnaud Goujon, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous êtes sous-directeur du pôle recrutement jeunesse au sein de l'armée de terre. Et la sergent, ou sergente, je ne sais pas s'il faut féminiser votre grade, Maëva, bonjour à vous.
Bonjour.
Est-ce que je peux vous demander votre âge?
Oui, bien sûr, j'ai 25.
Et vous opérez dans un escadron de transport au sein du 121e régiment de train à Montlhéry en Essonne. Vous allez évidemment nous parler de ce choix. Un mot d'abord de cet objectif. Général Goujon, recruter cette année encore 12 000 soldats, 4 000 officiers sous-officiers. Est-ce que ce sont eux finalement les encadrants de demain qui sont les plus difficiles à séduire aujourd'hui?
Les plus difficiles à séduire, non. On a un recrutement des cadres officiers et sous-officiers qui est extrêmement dynamique. Voilà, historiquement, en France, il y a une très forte appétence pour ces métiers-là. En fait, mon défi, c'est plutôt d'attirer les meilleurs profils, parce qu'on a une armée qui se transforme technologiquement, parce qu'on a un impératif d'efficacité opérationnelle. Donc moi, mon défi, c'est en permanence de recruter les meilleurs. Donc on n'est pas sur une difficulté de réalisation des chiffres, on est sur une bataille de la qualité.
C'est pas facile de faire à la fois beaucoup et des très beaux profils.
C'est le défi de l'armée de terre. L'armée de terre, c'est le premier recruteur de France. Mmh. On est entre 15 000 et 16 000 recrutements tous les ans depuis de très nombreuses années. Et c'est à la fois un problème industriel et un problème de haute couture. En fait, mon défi, c'est de réussir les deux. C'est de recruter beaucoup et de recruter en qualité, que ça soit sur la qualité des personnes, leur performance, mais également sur les compétences. Mmh. Alors, à peu près 20% du recrutement de l'armée de terre, on est sur des métiers à très très forte concurrence dans les domaines du numérique, de la maintenance, de la cybersécurité, etc., etc. Donc voilà, on est sur ce double défi permanent, on est dans une bonne dynamique. Alors, on a une armée de terre qui recrute bien, on est un peu une exception en Europe. On est un des très rares pays européens à réaliser nos effectifs au grand complet. Voilà, c'est pas pour autant que c'est facile, c'est une
vraie
bataille.
Comment vous expliquez cette différence?
Par le fait que l'armée de terre française, c'est une armée d'emploi, c'est une armée qui est en opération depuis de nombreuses années, c'est une armée qui est bien connue de la population. C'est une armée qui est au contact des jeunes. Enfin, on rencontre sous une forme ou sous une autre, sur les journées défense citoyenneté, sur plein d'événements, plus de 300 000 jeunes chaque année, de manière directe. Et du coup, l'armée de terre, c'est pour les jeunes français quelque chose d'incarné. Puis je pense que le dernier aspect, c'est que les jeunes français, finalement, nous connaissent plutôt bien. Voilà, ils nous identifient assez bien pour ce qu'on est, pour ce qu'on fait, pour ce qu'on porte en termes de valeurs. Voilà, on est connu comme une organisation dans laquelle on fonctionne au mérite, dans laquelle règne une vraie fraternité, dans laquelle aussi il y a de l'exigence, il y a du dépassement. Voilà, mais du coup, on a une jeunesse qui nous connaît, nous comprend plutôt bien et à laquelle on répond en fait assez efficacement.
Mais général Goujon, quand vous dites la jeunesse nous connaît bien, pas suffisamment visiblement, puisque vous relancez une nouvelle fois cette campagne qui existait déjà l'année dernière, campagne d'affichage très large, massive. Ça veut dire qu'il faut toucher beaucoup, beaucoup de monde pour espérer au final aller jusqu'à la signature?
Pour faire les maths, comme disent les jeunes, dans une classe d'âge d'un peu plus de 800 000 jeunes, on va en toucher directement, on va en rencontrer un petit peu plus de 300 000 et on va en avoir à peu près 60 000 qui vont prendre rendez-vous.
D'accord.
C'est gigantesque.
Oui, c'est
on a 7-8% d'une classe d'âge qui prend rendez-vous avec un centre d'information recrutement de l'armée de terre. On va avoir à peu près un petit peu moins de 30 000 candidatures qui vont déboucher sur 15 000 à 16 000 engagements. Donc c'est un vrai phénomène de masse.
Ça veut dire que vous prenez un candidat sur deux?
Ça veut dire qu'on prend en moyenne un candidat sur deux.
Est-ce qu'on peut être vraiment
très
difficile
variable
quand on prend un candidat sur deux? Est-ce qu'on peut...
Ça dépend des métiers.
Oui.
Voilà, ça dépend des métiers. Des métiers où je recrute très facilement, où j'ai 3, 4, 5 candidats pour un poste. J'ai d'autres métiers où c'est beaucoup plus tendu, sur des compétences très pointues, sur lesquelles on a une concurrence assez frontale avec l'industrie ou le numérique. Enfin, donc c'est des situations très variables. Mais en fait, le point clé, c'est que nos jeunes, ils ne viennent pas chercher un métier dans l'armée de terre. Nos jeunes, ils s'engagent, selon l'expression consacrée. Il y a une notion d'engagement personnel, il y a une notion d'aventure. C'est un choix de vie, c'est pas un choix de métier, c'est un vrai choix de vie. Et c'est en ça qu'on s'en sort, c'est qu'on incarne quelque chose qui est différent d'une vie professionnelle normale.
Alors on va en parler justement avec le sergent Maeva qui est directement concerné. Un dernier mot juste sur cette campagne, parce que je ne sais pas si vous avez vu Matignon qui annonçait ce matin le gel de toutes les dépenses de communication de l'État pour rationaliser les dépenses publiques, disant que voilà, il fallait faire attention à chaque euro dépensé. Est-ce que ça remet en cause cette campagne de communication-ci déjà ?
Pour l'instant, non.
Pour l'instant, non. Vous n'êtes pas forcément confiant pour les prochaines.
Pour l'instant, non. C'est pas de la communication. C'est du marketing du recrutement. Voilà. Il y a un objectif de réalisation des effectifs de l'armée de terre. Donc, on n'est pas dans de la communication institutionnelle au sens où on l'entend habituellement.
Dire que vous pourriez passer par d'autres biais, je pense à des partenariats avec des écoles, par exemple, où j'imagine que tous les pays du monde ne font pas des grandes campagnes
d'affichage. L'un n'est pas exclusif de l'autre, parce que faire de la pub, pour parler trivialement, c'est peut-être nécessaire, mais c'est clairement pas suffisant pour recruter. Quand bien même je triplerais ou je décuplerais mes budgets de marketing sur les réseaux sociaux, télévision, radio, cinéma, que sais-je encore, c'est pas ça qui fait venir les jeunes. En fait, ce qui fait venir la jeunesse dans l'armée de terre et ce qui la fait venir en masse, c'est un choix de vie, un choix d'aventure. Donc c'est une condition qui est nécessaire, qui est utile, mais qui clairement n'est pas suffisante.
Alors justement, sergent Maeva, qu'est-ce qui vous a fait venir ? Est-ce que déjà, est-ce que c'est une campagne ? Est-ce que c'est un message sur les réseaux sociaux ? Quel a été le premier contact finalement avec l'armée de terre ?
Alors le premier contact, c'était peut-être oui un message sur les réseaux sociaux, mais comme disait le général, c'est avant tout un goût d'aventure. Qui m'a poussée à passer le pas en fait, et venir dans l'armée de terre.
Mais tout de suite, vous vous êtes dit, j'ai envie d'aventure, ça veut dire l'armée de terre, ou est-ce que vous aviez exploré d'autres chemins avant ?
Alors non, j'avais exploré d'autres chemins avant. En fait, j'ai fait un BTS dans le transport et la logistique, donc un métier d'avenir qui m'intéressait beaucoup et qui ouvrait beaucoup de portes sur plusieurs spécialités. Mais à côté de ça, j'étais aussi, je fais beaucoup de sport, un peu de tous les sports, et j'aime justement l'aventure, partir de temps en temps dans la France ou même en dehors de la France. Et je me suis dit, l'armée de terre, je pense que c'est ce métier-là en fait, qui regroupe tous mes centres d'intérêt. Et c'est vraiment ce petit truc-là qui a fait que j'ai passé le pas.
Comment ça s'est fait ? Vous avez vu un message, vous avez dit, bon, l'armée de terre recrute, pourquoi pas moi ? Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, j'étais déjà intéressée par l'armée de terre, mais en fait, j'ai fait ma JDC un peu tard. Donc j'avais fait mon BTS déjà quand j'ai dû refaire ma JDC. Et c'est à ce moment-là qu'en faisant ma JDC, je me suis dit oui, en fait...
La journée de citoyenneté, hein.
Tout à fait, oui. Je me suis dit, en fait, oui, c'est vrai que ce métier-là m'intéressait beaucoup. Donc je me suis beaucoup plus renseignée sur le métier et j'ai vu que... Effectivement, ça
pourrait être pour vous.
Ça pourrait être pour moi, oui.
C'est vrai que Général Goujon, on n'en a pas parlé de cette journée, finalement, que tous les jeunes doivent faire. C'est à quel âge exactement aujourd'hui ? 16 ans ?
C'est à partir de 16 ans.
16 ans. Est-ce que ça, c'est évidemment un atout majeur lorsqu'on est recruteur ?
C'est un atout majeur, puisqu'il y a un rapport direct entre le nombre de jeunes qu'on rencontre chaque année et le nombre de jeunes qu'on parvient à recruter. L'armée de terre, c'est un objet un peu intimidant pour la jeunesse. C'est un objet un peu exotique. Dans la société d'aujourd'hui, les gens nous connaissent, mais en fait ils nous connaissent pas très bien. Et pour nous, le point clé, c'est créer la rencontre. Donc, la journée défense citoyenneté, c'est souvent l'occasion de cette rencontre-là. L'autre intérêt, c'est que ça nous permet de toucher énormément de jeunes, puisque tous les jeunes sont concernés. Donc, c'est un des outils clés pour rencontrer un petit peu plus de 300 000 jeunes chaque année, ce qui est notre objectif.
Est-ce que vous aviez des craintes tout de même, sergent Maeva, des clichés sur l'armée, surtout lorsqu'on est une femme, une jeune femme. Est-ce que vous avez craint de ne pas vous y sentir à l'aise ?
Alors, effectivement, il y a pas mal de clichés, que ce soit dans l'armée ou en dehors, enfin, de la société actuelle, vis-à-vis des femmes tout simplement. Oui, effectivement, il y avait certaines craintes, mais depuis que j'ai intégré l'armée, donc un peu plus de 2 ans maintenant, j'ai jamais ressenti aucune difficulté. Il faut savoir s'imposer, il faut savoir montrer, faire ses preuves et montrer qu'on est nous aussi égales aux hommes. Et
Vous dites que vous n'avez pas rencontré de difficultés. Est-ce que c'est le cas de toutes les autres soldates de l'armée de terre ? Ou est-ce qu'il y a quand même peut-être encore des réflexions qui fusent ou une égalité qu'il faut parfois un peu prouver ?
Alors, je ne sais pas si c'est le cas de toutes les femmes qui sont dans l'armée. Pour ma part, je n'ai jamais reçu j'ai jamais eu de situation où je me suis sentie différente du fait que je sois une femme au sein de l'armée. Après, peut-être qu'il y a des pensées encore anciennes qui restent dans les têtes de certains, mais c'est...
Est-ce que c'est quelque chose dans le processus de recrutement auquel vous êtes particulièrement attentif? La féminisation des effectifs, justement, Général Goujon?
Les femmes représentent à peu près 13% du recrutement. La particularité de l'armée de terre, c'est que il y a des femmes dans tous les métiers, quasiment tous les métiers, et surtout à tous les niveaux de responsabilité. L'armée de terre, il y a quelque chose de très spécifique, c'est que on confie à des jeunes de 23-24 ans des responsabilités de jeunes officiers. Ils ont 30-40 soldats sous leurs ordres. Des jeunes sous-officiers qui ont 21-23 ans, qui ont 6-8-10 soldats sous leurs ordres. Et qui partent au combat avec ces soldats. Donc c'est une responsabilité absolument extraordinaire qu'on confie à des gens tout jeunes, à peine sortis de leurs études, et une part importante de ces jeunes cadres est composée de filles. Donc c'est une vraie spécificité, c'est aussi quelque chose qui est devenu un phénomène de masse sur les 35 ans d'armée de terre professionnelle, c'est devenu quelque chose d'extrêmement courant. Il n'y a pas un régiment où il n'y ait pas des filles à tous les niveaux de responsabilité, officiers, sous-officiers, militaires du rang. Donc on a appris à vivre avec. Voilà, moi j'entends avec plaisir ce que dit le sergent Maeva. Ça montre bien qu'on a appris à vivre avec ça. C'est devenu une forme de normalité. C'est-à-dire que ce qui a été un sujet dans l'armée de terre qui se professionnalisait il y a 30 ans, c'est quelque chose qui aujourd'hui est devenu naturel.
Quand je ne vous poserai plus la question, c'est qu'il n'y aura plus de problème, en fait, c'est ça. Vous avez parlé de l'aventure, parmi les sujets qui avaient été à l'origine de cette vocation. Est-ce que le contexte géopolitique, la situation du monde aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui a participé à votre réflexion?
Effectivement, enfin, quand on s'engage dans l'armée, on s'engage avant tout pour notre pays. Donc oui, effectivement, on est concerné par tout le contexte géopolitique.
Vous vous sentez concerné, mais est-ce que vous vous êtes dit, il y a plus de risques, par exemple, j'ai plus peur?
L'armée, en général, c'est un métier à risque. Donc oui, forcément, est-ce que j'ai eu plus peur? Peut-être pas, mais oui, j'étais consciente des risques que je peux encourir pendant ma carrière.
Et vos proches vous ont dit, bien sûr, c'est une super idée, ou oh là là, quel drôle de parcours?
Alors pas du tout, au contraire, ils n'étaient pas très pour que mon engagement au sein de l'armée, mais j'ai su leur prouver que c'était un métier qui m'intéressait et que je trouvais très valorisant, donc ils ont très bien accepté ma décision.
Le contexte géopolitique, Général Goujon, ça, vous le voyez dans les raisons qui font venir les jeunes chez vous, plus qu'avant, peut-être?
C'est parfaitement mesuré. Quand l'armée de terre est engagée dans une opération à forte visibilité, quand le contexte géopolitique est tendu, quand il y a des attentats, à deux reprises en 2015, on observe des pics dans le nombre de candidatures. Mmh. Ça s'est extrêmement marqué. C'est absolument pas surprenant. Le constat qu'on pose sur la jeunesse, c'est qu'on a une jeunesse qui est extrêmement consciente de tous les enjeux, qu'ils soient géopolitiques, mais qu'ils soient aussi climatiques, sociaux, etc. Et donc une jeunesse qui répond. En fait, on a une jeunesse qui est engagée. Et le contexte géopolitique est un des critères importants d'engagement. Il y a une relation assez directe.
Et la question du salaire, parce que finalement c'est aussi une question cruciale. Je vais vous poser la question, sergent Maeva. Mais est-ce que vous êtes suffisamment attractif, suffisamment concurrentiel pour aller chercher des jeunes diplômés, justement, qui pourraient trouver peut-être facilement un emploi dans la logistique, dans la cybersécurité, par exemple?
Ça dépend vraiment des métiers. Il y a des métiers où on est tout à fait concurrentiel. Où on se compare très confortablement avec le privé. Il y a des métiers où c'est absolument pas le cas, mais c'est pas grave. Moi, je vais prendre l'exemple de la cybersécurité que vous citez. Alors là, je vais vous le dire, on n'est pas du tout concurrentiel. Voilà. En revanche, de manière intéressante, dans le domaine cyber, j'ai pas de problème de recrutement. Pourquoi? Parce qu'on offre deux choses qu'aucun autre employeur n'offre. La première chose, c'est la dimension d'engagement et d'aventure, la dimension de collectif. Voilà. On n'est pas un employeur comme un autre. On est l'armée de terre et on offre un attrait qui vaut une différence de salaire. La deuxième chose, c'est qu'on donne accès à des capacités qui sont particulières. Et dans le domaine cyber, typiquement, c'est pas le hacker du coin du bois notre problème, c'est le hacker étatique de pays que nous
c'est
ne citerons pas.
C'est particulièrement intéressant, voilà. Bien sûr. Mais voilà. Est-ce que vous arrivez à longtemps retenir des profils comme celui-ci?
C'est un des enjeux. Deux manières de retenir. La première manière de retenir, c'est faire en sorte que les gens vivent bien leur métier, en vivent bien d'un point de vue salarial, qu'on accompagne bien, qu'ils vivent bien avec leur métier, d'un point de vue familial en particulier. Alors, et puis le deuxième volet, c'est offrir la capacité de progresser. Ce qui est quand même un des grands marqueurs de l'armée de terre. On a 50% de nos sous-officiers qui ont commencé comme soldats. On a 50% de nos officiers qui ont commencé comme sous-officiers. Et donc, on offre une mobilité horizontale, donc pouvoir changer de métier, changer de branche, et une mobilité verticale, pouvoir progresser, monter en responsabilité, monter en grade, qui est quand même assez exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup d'employeurs en France qui offrent ce genre de choses.
Sergent Maeva, vous voyez rester combien de temps dans l'armée ?
Alors, mon contrat pour l'instant se finit en 2028, mais je me vois prolonger pour l'instant, je n'ai pas d'autres perspectives d'avenir.
Vous avez dit pour l'instant. On va aller au standard de France Inter où nous attend Louis. Bonjour Louis.
Oui.
Je vous laisse poser votre question.
Oui, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc, merci de prendre mon appel. Je vous rends juste un bref hommage à nos soldats qui sont morts sur les théâtres des opérations extérieures, et à ceux qui sont blessés. Ma question est la suivante, ma remarque. Donc, je m'adresse surtout au général, puisqu'on a la chance d'avoir un général en ligne.
Rapidement, donc, si vous voulez bien, Louis, pour justement lui laisser le temps de répondre.
Oui, on a l'armée française, c'est à peu près 200 000 hommes et femmes, et il y a 1000 colonels. Donc, c'est-à-dire, on a un ratio de 1 colonel pour 200 personnels. Je trouve ça énorme, et il y a beaucoup trop de gradés dans l'armée française.
Merci, Louis, pour votre avis. On va voir si c'est un avis partagé par le général Goujon, ce ratio entre les encadrants et finalement les soldats.
Alors, c'est pas une question de ratio d'encadrants. C'est-à-dire que si vous allez dans nos régiments, alors dans un régiment qui a à peu près 1000 hommes, il y a un colonel. Alors, c'est le chef de corps. Alors, en revanche, on a des états-majors, on a un besoin d'expertise, on a un besoin de haut encadrement, de haut commandement, voilà, où on a besoin de gens d'expérience. Donc, on a une pyramide des grades qui est évidemment pas strictement pyramidale. Voilà. On a exactement la même chose pour nos sous-officiers. Voilà, on a des sous-officiers très anciens qui sont porteurs d'une expertise technique très élevée, voilà, et qui sont en fait plus nombreux que nos sous-officiers un peu plus subalternes.
On comprend bien que vous ne voulez pas opposer les uns aux autres.
Exactement.
Merci beaucoup d'être venus tous les deux, général Arnaud Goujon, sous-directeur du pôle recrutement jeunesse au sein de l'armée, sergent Maevin. Merci à vous et bonne continuation, évidemment. Très bonne journée à l'écoute de France Inter. Place maintenant notre feuilleton qui nous emmène sur le chantier d'une cathédrale, alors pas Notre-Dame de Paris, mais la basilique de Saint-Denis, où des travaux ont été lancés il y a quelques mois pour lui rendre sa silhouette d'origine. La flèche et la tour nord du monument, qui avait été démonté au XIXe siècle, sont en train d'être reconstruites. Et le public peut admirer le travail des artisans, notamment des tailleurs de pierre, grâce aux ateliers dirigés par Nathalie Pascot.
Là, ils vont me faire un uppercut, c'est-à-dire qu'il va vraiment falloir que le mouvement soit sec, que ce soit vraiment une onde qui passe dans la pierre et le morceau va se décrocher. Attention à vous. Ils n'ont plus qu'à tailler tout le contour de leur motif central en essayant d'être le plus plat possible.
Bonjour, je m'appelle Ima et j'ai 10 ans. On prend plein de petits outils différents, on le pose sur la pierre et après avec un petit marteau, on tape derrière.
Bonjour, je m'appelle Sacha, j'ai 7 ans. On devait faire un cœur avec un bloc. Bah, au début, il nous aidait un petit peu à faire le contour et après tu faisais toi. C'était un petit peu compliqué, mais on a quand même réussi.
Et là, il n'y a plus aucun bruit en dehors d'une musique de massette et de ciseaux.
Le premier marquage qui est fait.
Bonjour, je m'appelle Nicolas Matijazic et je suis le directeur général de l'association Suivez la Flèche qui pilote la reconstruction de la tour nord et de la flèche de la basilique cathédrale Saint-Denis. Les pierres, elles viennent d'une carrière à Saint-Maximin dans l'Oise, c'est de la pierre calcaire. C'est des blocs de plus de 40 millions d'années qui sont extraits de cette carrière. 15 228 pierres, c'est l'équivalent entre 5 et 6 Airbus A380 qui sont posés sur cette basilique. La tour et la flèche, on les a modélisées. Il y a des pierres, vous pouvez parrainer des pierres à partir de 15 euros jusqu'à des sommes un peu plus importantes, de 5 000 euros, voire même plus pour certaines gargouilles. Si vous avez un montant important, plus c'est possible, vous avez vos initiales qui sont gravées sur la pierre. Et ça, ce financement participatif nous permet d'aller chercher, effectivement, dans le modèle de prévision que l'on a, entre 3 et 4 millions d'euros pour finir de financer le projet.
Bonjour Cécilia, soyez la bienvenue au bureau. Donc Christophe Bottineau, je suis architecte en chef des monuments historiques. Il y a un traumatisme qui s'installe chez les Dionysiens, qui est un peu le syndrome du membre absent, c'est-à-dire cette forme d'amputation. Lorsque les cartes postales vont apparaître, la tour et la flèche nord sont déjà déposées. Eh bien, on va, sur les cartes postales, sur les photos, on va reconstituer la tour et la flèche. On sait très bien, à l'époque, coloriser, retoucher une photo. Hein, et eh bien, on va représenter cette tour et cette flèche pour dire, mais non, on nous l'a volée, mais pour nous, elle est toujours là. C'est dire à quel point elle est là dans les mémoires. Et le plus compliqué, ça ne va pas être d'apprendre, ça va être de désapprendre. Les jeunes qui sont formés à la taille de pierre sont habitués à former des blocs de Lego, des blocs de sucre, des parallépipèdes. Eh bien, on ne s'amuse pas à aller dépenser de l'énergie, à tailler des parties de pierre qui ne seront jamais vues puisqu'elles sont à l'intérieur du mur. D'autant plus que plus elles auront des formes biscornues, plus elles vont venir s'ancrer et s'accrocher à l'intérieur de la maçonnerie. Si j'ai une forme un peu en dents de requin, brisée, etc., elle va avoir de multiples accroches et on va avoir au contraire un élément très homogène. Et c'est ça qui est fondamental. On a l'art de la paresse intelligente. Et les jeunes me disent, mais... jeune tailleur de pierre, mais attendez, ce que vous me demandez là, moi j'ai zéro à mon examen. Je dis, mais c'est parfait, moi je vous donne 20 sur 20.
Et suite demain de notre feuilleton, signé Cécilia Arbona, 13h50, c'est la France, Cyril Petit. Et aujourd'hui, on va pêcher ensemble.
Et une fois n'est pas coutume, Céline, je vous emmène en mer, dans la Manche, près de Saint-Va et Barfleur. C'est là que Paul s'adonne à sa passion. Je pêche le bar en kayak depuis 20 ans dans le Cotentin et je constate que l'on est de plus en plus nombreux, confie-t-il à Ouest-France. J'imagine que cela a des conséquences sur la ressource. Alors, à partir du 10 janvier 2026, Paul devra signaler ses captures, car Ouest-France a dévoilé vendredi dernier qu'un règlement européen adopté en 2023 entrera en vigueur et bouleversera la pêche récréative.
Et qu'est-ce que ça va changer, Cyril ?
Eh bien, comme le font les professionnels, plusieurs centaines de milliers de pêcheurs amateurs en mer devront s'enregistrer et déclarer leurs prises, même quand elles sont destinées à la consommation personnelle. Alors, répétons que cela ne concerne que la pêche maritime, un passel en eau douce et seulement certaines espèces sensibles, le bar, le lieu jaune, aussi appelé colin ou merlu, le thon rouge et certaines dorades. Alors il y aura quelques adaptations locales, mais la règle s'appliquera en Manche, Atlantique et Méditerranée, mais pas dans les Outre-mer. La Commission européenne a développé un site internet où devront être enregistrées les informations et en attendant les verbalisations, c'est la pédagogie qui primera.
Alors finalement, c'est quoi l'objectif de ces déclarations, Cyril ? Quelles sont les réactions ?
Eh bien, il s'agit de mieux connaître le secteur de la pêche de loisirs en mer, ses pratiquants, et de tracer les prélèvements de poissons. Le ministère veut ainsi, je le cite, accroître la gestion scientifique des espèces sensibles afin de renforcer l'exploitation durable des ressources. Et les réactions, eh bien, elles sont partagées. Certains y voient une décision utile. On n'a rien à cacher, cela ne nous gêne pas de déclarer nos prises si cela peut servir à respecter la nature, dit par exemple Didier Biron, président de l'association des pêcheurs plaisanciers de Saint-Malo en Ille-et-Vilaine. D'autres jugent la mesure honteuse et y voient du flicage, la mise en place d'un permis déguisé ou une façon de détourner les yeux de la surpêche des bateaux-usines. Michel, 74 ans, pêcheur amateur à Pornichet en Loire-Atlantique, réagit auprès de TF1. On est en colère parce qu'il faudra tout déclarer, on va rentrer de la pêche, il faudra aller sur Internet.
Alors d'autres pêcheurs sont plus à l'aise sur Internet, on pourrait presque dire qu'ils sont comme des poissons dans l'eau, enfin exactement. On ne va pas aller trop loin dans la métaphore. Ils sont plus jeunes, ils rejettent souvent les poissons, ne les mangent pas, et ça c'est une pratique qui cartonne.
Oui, ce sont des adeptes du street fishing, hein, la pêche urbaine. La semaine passée, il y a eu un concours en plein cœur de Mulhouse avec 40 équipes. Prochain rendez-vous, Metz, Orléans ou Vendôme. Alors, cette pratique pour laquelle une carte de pêche est obligatoire attire de plus en plus les jeunes. Exemple à Périgueux, en Dordogne, avec Jules, un adolescent qui témoigne pour Ici Périgord. Nous, on est vraiment là pour le côté sportif, pour le plaisir du poisson. Tout le monde va chercher à faire le plus gros poisson pour les likes sur les réseaux sociaux, pour la visibilité ou même, pourquoi pas, pour un sponsoring.
Est-ce qu'on sait combien de jeunes pratiquent la pêche ?
Eh bien, pour terminer, Céline, je vous emmène à Villeneuve-sur-Lot où a eu lieu ce samedi le Lot Fishing Day. Dans le département, un tiers des pêcheurs à moins de 25 ans au niveau national sur 1,4 million de pratiquants. Plus d'un quart sont mineurs. Certains sont influencés par des youtubeurs stars de la pêche. Je vous cite sur Ici Bretagne Tristan Edouin, pêcheur youtubeur aux 117 000 abonnés. Il faut oublier le papy avec sa bière au bord de l'eau. Le pêcheur est désormais aussi un jeune stylé. Alors donc, Céline, certains vont compter les espèces menacées et d'autres les abonnés.
Merci Cyril Petit du quotidien Ouest France. De C'est la France à C'est une chanson et c'est un comédien, auteur et metteur en scène que l'on retrouve aujourd'hui à votre micro, Frédéric Pommier. Il s'appelle Sébastien Azzopardi.
Sébastien Azzopardi, dont on peut voir trois des projets actuellement à Paris. Il a co-adapté et mis en scène la pièce « Dernier coup de ciseau » au Théâtre des Mathurins. Il a co-écrit et il joue dans « Mission Florimont » au Théâtre Rive Gauche. Il a par ailleurs mis en scène au Théâtre Michel le spectacle « ADN ». Et c'est de Dalida qu'il a souhaité parler.
J'écoute pas Dalida en boucle, mais j'ai toujours aimé Dalida, je l'ai toujours écoutée. Elle m'a toujours accompagné. Depuis que je suis ado, on passe ses chansons en soirée. Maintenant, je suis un peu moins ado et on écoute toujours ses chansons en soirée. Et je pense que c'est un trait d'union incroyable entre les générations. Et c'est une artiste qui a à la fois une exigence et un côté populaire qui parle à tout le monde. J'ai l'impression qu'elle parle au milieu populaire comme au milieu plus raffiné, on va dire plus éduqué. J'ai l'impression qu'elle est vraiment à la frontière de plein de monde avec une grande spontanéité. Je trouve ça très fort de la part d'une artiste.
I found my love in Portofino, perché nei sogni credo ancora. Lo strano gioco del destino a Portofino m'ha preso il cuore. Nel dolce incanto del mattino.
Il mare 1959 qui est sortie cette chanson de Dalida, Frédéric.
Love in Portofino, reprise d'une chanson italienne sortie un an plus tôt. Dalida chante ici qu'elle a trouvé l'amour à Portofino, ce qui a donné envie à Sébastien Azzopardi d'aller voir à quoi cette ville ressemblait.
Elle fait un peu rêver justement sur Portofino. Et je suis allé à Portofino, pensant vivre un petit moment de Dolce Vita. Et en fait, au mois d'août, c'est une mauvaise idée. On met absolument 3 heures pour rentrer dans la ville, 3 heures pour en sortir. C'est un tout petit village avec une piazzetta. Et j'avais loué un B&B. C'était magnifique parce qu'on avait vu sur la piazzetta, vu sur le port. J'ai fait une énorme erreur, c'est-à-dire que j'ai réservé pour une semaine, alors qu'en fait, Portofino, ça se visite en 3 heures. Chaque spritz est à 20 euros. On ne peut pas aller à la plage parce que c'est que des plages privées. Et en Italie, il faut le savoir, sur la Riviera italienne, les plages privées sont réservées à l'avance. Donc à chaque fois qu'on voulait s'installer sur la plage, on disait « mais c'est complet jusqu'à fin août ». Et donc, c'était à la fois magnifique et en même temps, c'est une sorte de vacances un peu ratées, magnifiquement ratées, on va dire.
Mais Portofino, vous y êtes vraiment allé à cause de cette chanson.
Exactement.
Ricordo un angolo di cielo.
Vous avez commencé à vous ennuyer à partir de combien de jours à Portofino ?
À Portofino, au bout de 4 heures. Après, il y a une journée entière qu'on a passée sur notre balcon en admirant la piazzetta avec un livre, parce que c'était finalement le meilleur emplacement qu'on pouvait avoir.
Est-ce que ces vacances à Portofino, elles ont fait du mal à votre couple ?
Non, quand même pas. Non, mais elles auraient pu. Si notre couple allait mal à ce moment-là, je pense que ça aurait été difficile. Mais il allait très bien et du coup, on a tout pris à la plaisanterie. Il a fallu réserver chaque restaurant pour tout le séjour parce que sinon, il n'y avait aucune place nulle part. C'était le contraire de ce qu'on pouvait imaginer d'un petit village italien de Dolce Vita où tout pouvait être improvisé et tout ça. Mais ça n'a rien enlevé à l'amour de la chanson, au fait qu'elle fasse rêver. Je pense de la même manière que certains touristes quand ils viennent à Paris, sont parfois bousculés dans leurs rêves parce qu'on ne vit plus comme en 1930 à Paris. Il y avait peut-être un petit peu de ça en arrivant à Portofino.
Mais après cette nuit divine, on l'entendit sonner un jour, même jusqu'aux villes voisines de Portofino pour notre amour.
Les vacances suivantes, vous êtes allé où ?
Les vacances suivantes, je pense qu'on est allé en Crète, où là, tout est facile.
Sans y être poussé par la moindre chanson ?
Non, ouais, là, il n'y avait pas de chanson. Mais ce serait une bonne idée, ça, de faire chaque vacance en fonction d'une chanson.
En me portant entre ses bras.
De toute façon, à l'arrivée, On a été très heureux sur cette semaine à Portofino. On s'est trompé de vacances, mais c'est pas un mauvais souvenir. C'est même, je dirais, aujourd'hui, ça m'amuse.
Il chante notre mariage vers les nuages à Portofino. I found my love.
Vacances ont raté, mais la chanson est belle. Love in Portofino, Dalida. C'était donc, Frédéric, le choix de Sébastien Azzopardi.
Sébastien Azzopardi qui a notamment mis en scène la pièce ADN, nommée au Molière l'an dernier. C'est à voir au Théâtre Michel à Paris.
Merci Frédéric Pommier. Les infos à suivre.